Merci. Donc, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail, parce que là, tout ce que je vais vous présenter, pour la plupart, vous le connaissez, donc ça va être une sorte de rappel, en essayant de montrer quand même quelques aspects positifs et négatifs dans tout ça, donc sur les différents types et fonctionnements des ouvrages constitutifs des étangs. Alors, le terme étang, on va plutôt dire même plan d'eau, hein, comme ça on ne fera pas forcément de confusion entre mare, lac, étang, etc., notion de surface, de profondeur, etc. Donc on restera sur le schéma des ouvrages que l'on peut rencontrer sur le bassin versant de la Vienne, donc, et même le Limousin, la Charente, etc. Donc, dans la présentation, je vous rappellerai donc dans un premier temps les ouvrages de base d'un étang, d'un plan d'eau. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour faire au minimum un plan d'eau? Donc, une chaussée, un système de vidange, un déversoir. Avec ça, ben, vous avez un plan d'eau. Vous ajoutez à cela, on peut avoir des ouvrages supplémentaires dits limiteurs d'impact. Limiteurs d'impact par rapport à tous les impacts qui ont pu être cités juste avant moi, donc par le NEMA. Donc, ce sont des ouvrages qui concerneront les équipements piscicoles, des trop-pleins dits eaux froides, ce qu'on peut résumer à SEF, système d'évacuation des eaux du fond, des systèmes de gestion sédimentaire et enfin donc la fameuse dérivation. Et enfin, dans une troisième partie, pour raccorder un petit peu que les exposés de cet après-midi, où on va avoir une petite réflexion justement sur que ces ouvrages, en fait, qu'ils soient de base ou supplémentaires, ben, c'est finalement un premier pas vers une bonne gestion des plans d'eau. Est-ce qu'ils sont nécessaires, suffisants? On verra ça, tout ça. Donc, les ouvrages de base d'un plan d'eau. Ben, on va commencer par la chaussée. Hein. C'est ce qui retient l'eau par barrage d'un écoulement. Donc, sous le terme écoulement, que ça soit source, cours d'eau, ruissellement, hein, que ça fasse 3 km ou 10 mètres, c'est ce qui retient l'eau, c'est ce qui constitue, ce qui permet de faire monter l'eau, finalement, et de constituer le plan d'eau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une digue, une chaussée, n'est généralement pas à 100% étanche. Alors quand ça ne veut pas dire que ça fuit tout le temps, non, ça veut dire qu'il existe un gradient hydraulique. Il peut exister un gradient hydraulique dans la chaussée. Donc là, vous avez un petit schéma que je vous ai constitué. Donc avec ici l'eau, ici la chaussée, le système de vidange pour représenter, et malheureusement bien souvent donc déligneux sur la chaussée. La petite ligne que vous avez ici, c'est en fait la ligne de saturation en eau de la chaussée. C'est-à-dire que l'eau qui est ici s'infiltre toujours un petit peu dans le corps de la chaussée, et tout ça suivant finalement la constitution de votre chaussée. Plus elle sera imperméable, plus elle sera étanche, finalement constituée d'argile, plus cette ligne plongera rapidement dans la chaussée et finalement ne débordera pas de la chaussée. Si par contre, ben les matériaux sont poreux, si par exemple il y a des arbres, des galeries de ragondins, des faiblesses ou autres qui dénaturent un petit peu l'étanchéité de la chaussée, eh bien cette ligne restera, peinera à plonger dans la chaussée, et si cette ligne de saturation malheureusement sort de la chaussée, ben, on observe des fuites vers l'extérieur. Les types de matériaux rencontrés, c'est très généralement de la terre compactée avec ou sans noyau d'argile. Le noyau d'argile, tout simplement, ben, c'est ce qui va faire rabattre cette ligne de saturation encore plus rapidement. Quelques bonnes pratiques par rapport à ces chaussées, ben, c'est d'avoir une chaussée dimensionnée au volume d'eau retenue et aux matériaux utilisés. On peut avoir une chaussée de 10 mètres poreuse qui fera moins bien qu'une chaussée de 4 mètres de large, mais complètement étanche. Hein, c'est pas la largeur qui fera que le plan d'eau ou que la chaussée sera en bon état, c'est aussi les matériaux utilisés. Parce que la chaussée, faut pas oublier qu'elle est là pour résister à la poussée de l'eau aux fuites. Bonne pratique aussi, c'est de n'avoir aucune végétation ligneuse sur l'emprise. Et j'irai même plus loin, ou à proximité également. Pourquoi? Bah, pour éviter de rompre la cohésion des matériaux de cette chaussée. Et ou de créer des circulations préférentielles. Hein. Vous imaginez les racines de l'arbre dans cette zone de saturation en eau, l'eau, elle va suivre les racines et pourrait faire ressortir cette ligne de saturation en dehors de la chaussée. Lutter contre l'érosion de la face amont, hein, ce qu'on appelle le bâtillage. Le bâtillage, c'est des petites vagues formées par le vent ou autre. Alors, normalement, c'est les bateaux en mer, hein, mais sur nos plans d'eau, c'est plus le vent. Et ces petites vagues donc vont éroder la face amont de votre chaussée, donc c'est lutter contre cette érosion. On a de tout, enrochement, végétalisation, moins bonne idée, bâche plastique, etc. Bon, chacun fait avec les moyens du bord. Bonne pratique aussi par rapport à la bonne santé de la chaussée, c'est la vidange et des remises en eau lentes. Pourquoi ? Ben, tout simplement ben, que votre chaussée est pleine d'eau, entre guillemets, et que si vous vidangez ou vous remettez en eau trop lentement, les circulations d'eau dans ces chaussées augmentent et donc emportent plus de matériaux et donc déstabilisent l'imperméabilité. Un entretien très régulier, bon ça va avec la végétation ligneuse hein, tout simplement, mais débroussailler, etc. Limiter, voire interdire l'accès aux animaux, et notamment les bovins, hein, ça, au même titre que l'érosion des vagues, ça crée beaucoup de désordre sur les chaussées. Et finalement, ce qui est un peu plus administratif, mais on peut le résumer à notre carnet de santé à nous, hein, bah, c'est un registre, c'est-à-dire inscrire sur un document papier, voire informatique, tout ce qui se passe par rapport à votre plan d'eau, ou tout de moins à votre chaussée. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qui a été fait, les incidents, les contrôles, etc. Ça permet d'avoir une mémoire, finalement, de ce qui s'est passé. Et c'est encore plus important au moment des ventes. Hein, on n'a pas eu la personne des ventes ce matin, mais c'est un petit peu voilà les papiers du plan d'eau. Ça en fait partie, il ne faut pas l'oublier. Un exemple d'un arbre sur une chaussée, ce que ça peut créer. Hein, donc un coup de vent, la vieillesse, etc. J'ai souvent entendu dire il a résisté à 99, donc il n'y a pas de problème. Ben, je ne pense pas qu'il n'y aura plus aucun arbre qui tombera maintenant. Hein. Donc même s'il a passé 99, ça peut toujours tomber. Deuxième ouvrage, ben, on a une chaussée qui retient l'eau. On a un système de vidange qui permet de vider finalement la cuvette de l'étang. Tout ça est connecté à une buse de vidange qui passe en dessous de chaque chaussée à travers et achemine l'eau à l'aval de la chaussée. Donc ça, tout ça, vous le connaissez, hein, je le répète, mais pour situer un petit peu tout le cheminement. Les types d'ouvrages rencontrés, bien, une vanne ou une pelle amont, donc ça c'est le principe de levier ou de la baignoire, hein, on a quelque chose dans l'eau qu'on retire, ou une vanne ou une pelle aval, donc là ça se situe derrière, à l'air libre, et on va dire un système amont, donc ce qu'on appelle le moine, c'est en fait un ensemble de parois siphoïdes en planche. Donc là, en deux petites photos, à gauche, ici, ce qu'on appelle une vanne ou une pelle aval, et ici, une représentation donc graphique d'un système amont avec une passerelle, etc., comme vous pouvez le remarquer. Ce genre de système-là, malheureusement, est un peu problématique. Là, on peut le voir sur la photo. Normalement, il y a un petit robinet ici. Là, on voit qu'il est coupé et rien ne sort, ou tout le moins des infiltrations. C'est sous pression, ça peut se remplir de vases, etc. C'est pas l'évident, et notamment si les vidanges sont espacées, c'est encore plus problématique. Une vue dynamique donc d'un moine. Bon, je reviendrai dessus tout à l'heure par rapport à l'évacuation des eaux du fond. Donc c'est un ouvrage branché sur la buse de vidange. Une cloison ou plusieurs cloisons centrales. Les vrais moines, je dirais, ont même une troisième cloison à l'extérieur. On enlève les planches successivement pour baisser le niveau, voire vidanger complètement. Les bonnes pratiques par rapport au système de vidange, donc c'est d'avoir un ouvrage accessible mais sécurisé, hein, pour agir rapidement sur l'ouvrage en toute sécurité mais éviter les manœuvres des tiers. J'ai rencontré souvent la réflexion de mon étang a été saboté, etc. Mais ne pas oublier que vous aussi vous devez pouvoir l'utiliser facilement. Un ouvrage bien dimensionné, on doit permettre une vidange alors rapide, c'est entre guillemets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre 3 semaines à essayer de ouvrir le système et qu'à la moindre pluie le plan d'eau se remet en charge, etc. C'est-à-dire qu'il fasse le yo-yo parce que le système de vidange n'est pas suffisamment grand dimensionné. Ça va avec la pratique, hein, une vidange et des révisions très régulières. Si vous attendez 25 ans pour vidanger, votre système ne vidangera certainement rien du tout. Dispositif de débit réservé, donc si pas de dérivation. Donc par exemple, sur le dispositif de vidange intégral, greffer une minivanne, un orifice calibré, un robinet, tout ça, c'est pour permettre donc de respecter ce, au moment du remplissage notamment, là c'est important, un débit minimum vers l'aval. Hein, bien souvent, avec un moine ou un système de vidange classique, on laisse entr'ouvert, on cale les planches ou on le fait pas. Il faut le faire, il faut trouver un système et par exemple des minivannes sur les parois externes des vannes, un orifice calibré dans la dernière planche, un robinet, etc. Tout ça se pense. Pourquoi pas aussi un dispositif de secours? une vanne aval par exemple en plus d'une vanne amont, une vanne arrière dans le moine en plus des planches, un bâtardeau à l'amont. Pourquoi ? Bah, ça permet de stopper une vidange accidentelle. Hein, par exemple, votre vanne s'est bloquée à l'amont, bah, vous fermez celle à l'arrière et vous êtes tranquille. Vous pouvez reprendre le contrôle, admettons en enlevant trois planches, la quatrième casse. Bah, vous fermez la petite trappe derrière le moine et ça vous laisse le temps de réparer. Ça permet aussi de limiter les impacts. On parle du bâtardeau, une vidange, une manœuvre d'un tiers, etc. Un bâtardeau amont permet de ne pas faire partir, s'il est bien installé, tous les poissons et toute la vase. Ça permet de limiter les dégâts, en tout cas. Dernier élément de base, le déversoir. Donc ça, c'est fait pour assurer la sécurité de la chaussée. Ce n'est là normalement que pour ça, pour assurer la sécurité de la chaussée, des biens et des personnes situées à l'aval. On retient de l'eau, des fois beaucoup, avec un bassin versant qui peut en amener encore plus. Donc pour éviter tout ce qui est rupture, inondation à l'aval, etc., il faut quelque chose qui permette de rendre transparent l'ouvrage finalement. C'est un ouvrage qui normalement fonctionne à écoulement gravitaire vers l'aval et il nécessite, comme on est sur un sujet de sécurité, un calcul hydraulique pour sa conception. Type de matériaux, ben on a le choix, j'allais dire, un canal à ciel ouvert ou une buse. Deux exemples rapides, donc à gauche un canal, à droite une buse avec un avaloir. Donc ne prêtez pas forcément attention à l'entretien, etc. C'est juste pour illustrer les schémas. En bonne pratique, ben avoir un ouvrage dédié et dimensionné, donc c'est-à-dire que le déversoir ne serve pas de trop-plein, de vidange, etc. Hein, c'est-à-dire qu'un moine n'est pas un déversoir de sécurité, un moine est un système de vidange et un système de trop-plein. Pourquoi surdimensionner ? Bah, c'est une sécurité supplémentaire. On ne sait pas forcément ce qui peut se passer au fur et à mesure des années. Par exemple, il peut y avoir des constructions sur le bassin amont de votre plan d'eau, et donc il y a encore plus d'eau qui peut arriver. On peut avoir des créations de routes qui amènent encore plus d'eau, etc. Donc, mieux vaut prévoir plutôt que refaire 10 ans après. Un ouvrage à écoulement libre, de préférence à ciel ouvert. Pourquoi écoulement libre ? Un écoulement naturel, c'est-à-dire c'est pas un écoulement en charge, il n'y a pas de pression. On voit ce qui se passe aussi. Préférence à ciel ouvert, c'est ça, c'est pour un contrôle plus aisé, on voit ce qui se passe. Une succession de buses en béton, s'il y en a une au milieu de la chaussée qui se décale, vous le verrez pas. Vous le verrez que quand la chaussée s'effondrera au milieu parce qu'à force de passer, l'eau a creusé. Ou alors c'est que vous entretenez bien votre plan d'eau et vous regardez souvent dedans. C'est possible aussi. Dispositif anti-flottant, ben ça c'est pour éviter le colmatage. Hein, si on a un déversoir busé, pour éviter le passage de branches, etc., pourquoi pas. Et surtout, s'il y a présence de grilles. Et pour illustrer, ben, la photo que je vous ai mis en bas, hein, c'est le cas à éviter d'avoir, c'est-à-dire, pour le cas ici, une chaussée déjà en mauvais état, un déversoir à l'origine busé, dont la digue, vous voyez, venait jusqu'ici, hein, la chaussée venait jusqu'ici. Là, c'est des bus béton, et là, en fait, l'eau ne rentrait plus par ici, mais passait par en dessous. Donc, ça, c'est à éviter. Petite illustration rapide, donc en schéma, un déversoir à ciel ouvert, je vous ai parlé tout à l'heure du dimensionnement, donc il y a tout un aspect réglementaire là-dessus. Je vais passer très vite, hein, parce qu'il y a beaucoup de calculs, etc., etc., mais pour illustrer, on peut représenter ici le niveau d'eau normal géré par un trop-plein indépendant, donc je reviendrai tout à l'heure sur la question. Quand vient une pluie d'orage, votre plan d'eau va monter, va passer, donc le déversoir va assurer sa fonction de sécurité, va permettre l'écoulement vers l'aval, et ce que j'ai représenté ici en bleu, par exemple, c'est la hauteur d'une pluie d'orage normale. La réglementation veut que votre plan d'eau soit équipé d'un déversoir de sécurité ou d'un ensemble de déversoirs capable d'évacuer une crue centennale, c'est-à-dire un événement qui arrive en théorie tous les 100 ans, mais qui peut arriver 2 jours de suite. Hein. C'est pas voilà, c'est statistique. Donc, la crue centennale montrera de X centimètres dessus. Et réglementairement parlant, il faut qu'il y ait encore une réserve de sécurité de 40 centimètres par-dessus tout ça. Donc toutes ces dimensions-là, ces variations-là, etc., sont gérées par le fameux dimensionnement et le fameux calcul. Donc ça, c'était les ouvrages de base. Hein. Avec ça, on a un plan d'eau. On a beaucoup, beaucoup de plans d'eau sur le bassin de la Vienne qui sont strictement équipés que de ça. Allez, on va donner des chiffres, à peu près 50%. Maintenant, ajouté à tous ces équipements-là, on peut penser rajouter d'autres équipements. Donc on va commencer cette partie par les équipements que je vais qualifier de piscicoles. C'est-à-dire finalement tous les équipements qui ont un rôle pour le contrôle, l'isolement et la récupération intégrale des espèces piscicoles présentes dans le plan d'eau. Hein, un plan d'eau, un étang, n'est pas forcément destiné aux poissons, à la pêche, ça peut être la baignade, la chasse, etc. Il y a très souvent des poissons, donc que ça soit le but ou pas, il faut malgré tout qu'il y ait de quoi contrôler, isoler et récupérer ces espèces piscicoles. Tout ça pour éviter la fuite d'espèces indésirables, nuisibles ou en mauvais état sanitaire, à l'aval. Par exemple, un bassin de pêche chez les grilles, ça représente finalement un filtre. Pour imaginer un petit peu tout ça, ces équipements piscicoles sont ni plus ni moins que des filtres. Donc type d'ouvrage, bassin de pêche à l'aval, bassin de décantation temporaire ou grille de clôture piscicole. Les limites. Parce qu'il y a toujours des limites dans l'installation de certains ouvrages. Ceux que j'ai mentionnés avant, c'est pour le plan d'eau. S'il n'y a pas ces équipements-là, le plan d'eau ne peut forcément pas vraiment exister. Là, pour avoir un équipement piscicole, les limites, c'est souvent le diamètre de la buse de vidange. C'est-à-dire qu'avec une petite buse de vidange, malheureusement, les poissons souvent soit se blessent, soit ne passent pas, soit la buse de vidange est très petite, donc ça se bouche, etc. Donc c'est un peu la limite d'installation, d'usage en tout cas. Souvent, il faut penser à une récupération piscicole à l'amont. Et malheureusement, dans notre région, les plans d'eau sont pas construits pour être pêché au filet souvent. On est dans des fonds de talweg, etc. C'est très escarpé, c'est pas fait pour. Il n'y a pas forcément de poils de pêche. Donc les blessures des poissons possibles, ça nécessite une surface utile à l'aval de la chaussée. Malheureusement, beaucoup de plans d'eau sont construits en limite de propriété. Il n'y a même plus la place pour mettre un bassin de pêche. C'est très dommage. Notamment pour les autres équipements qu'on parlera tout à l'heure. Et attention, parce que les grilles, c'est pareil, ça accentue le cloisonnement du milieu. C'est-à-dire qu'on parlait de circulation piscicole et autres, etc. Un plan d'eau, une digue, ça crée une discontinuité. Des grilles, ça accentue tout ça. Par exemple, la dévalaison, là, ne se fait plus. Les bonnes pratiques, c'est des ouvrages, encore une fois, accessibles, mais sécurisés. Si vous avez un bassin de pêche d'un mètre de profondeur, il faut quand même le sécuriser pour pas que n'importe qui puisse tomber dedans, ou tout du moins que vous puissiez l'utiliser sereinement. Avoir une large surface d'évacuation au niveau des grilles notamment et du bassin de pêche, ça évite la mise en charge. C'est-à-dire que combien de propriétaires ont vu leurs grilles submergées ou leur bassin de pêche noyé parce que ça coulait pas assez ou c'était trop colmaté, par exemple. Donc des supports solidement ancrés. On évite le bricolage, j'allais dire. Des grilles inclinées dans le sens du courant, ça c'est pareil, ça réduit les pertes de charge, ça améliore l'écoulement. Des bassins de stockage compartimentés, alimentés en eau claire, confort d'utilisation, santé des poissons. Donc ça, c'était la partie piscicole, j'allais dire. Maintenant, sur la partie réducteur d'impact, et notamment cette notion de réchauffement d'eau, donc vous avez tous entendu parler de tout ce qui était trop plein d'eau froide, siphon d'eau froide, CEF, etc., moine. Le rôle et le fonctionnement, c'est dans un premier temps, donc la notion de trop plein, c'est de fixer le niveau d'eau normal. C'est pas le déversoir normalement de sécurité qui fait ça, lui il est là, c'est la soupape de sécurité. Le niveau d'eau normal, c'est le trop-plein qui l'assure. Donc ça fixe l'altitude de déversement qui est forcément inférieure au seuil du déversoir. La partie eau froide, CEF, un système d'évacuation des eaux du fond, c'est là pour réduire ou éliminer l'impact thermique du plan d'eau, prise d'eau au fond de l'étang. Donc un plan d'eau en plein été, c'est beaucoup plus chaud en surface qu'en profondeur. Même s'il n'y a pas de stratification marquée de thermocline et autres, il y a malgré tout une différence de température. Et cette différence peut parfois atteindre 10, 15, 20 degrés. C'est pas rien. Quand vous avez des cours d'eau qui sont normalement à 15 degrés et que vous rejetez de l'eau à 33, l'impact n'est pas nul. Il est clairement identifié. Donc pour cela, au lieu d'un déversement de surface, un déversement qui vient du fond, donc une prise d'eau, comme le moine finalement. Donc l'exemple type d'un trop plein d'eau froide, c'est le moine. Vous avez une prise d'eau en bas de la colonne, l'eau gravitairement par un système de vase communicante simplement remonte le long des planches, se déverse et passe à l'extérieur du plan d'eau. Et vous le voyez au fond, hop là, ça va revenir, le déversoir est légèrement plus haut que le moine. Ce qui fait qu'il y a une plage de fonctionnement suffisante pour que ça absorbe les coups d'eau, les variations, l'étiage et autres. Un CEF, c'est finalement un tuyau, un trop plein d'eau froide, une canalisation, c'est finalement un tuyau qui mime l'évacuation d'eau froide d'un moine. Donc il faut imaginer un tuyau qui part, dont la prise d'eau est aux alentours du système de vidange, hein. Quand vous avez un moine, vous n'avez pas de sève, et qui remonte au sommet de la chaussée. Ici, vous avez l'exutoire de ce système. Le déversoir, en fait, c'est au même endroit. Là, vous avez le seuil du déversoir. Le CEF est derrière cette paroi, légèrement plus bas. Ce qui fait que même chose que pour le moine, par un effet de vase communicant, l'eau sort par le tuyau avant de sortir par la surface. Les limites de tout ça, malheureusement, c'est l'évacuation d'eau peu oxygénée vers l'aval. Hein, c'est une eau du fond, c'est une eau peu oxygénée. Par contre, vous avez vu le mouvement, ça se corrige. Cet effet négatif, est corrigé par le fonctionnement s'il y a quelques chutes. Et la limite d'installation du moine, c'est surtout la hauteur de la chaussée. Hein. Si on dépasse 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, on commence à avoir des cathédrales, des monuments assez importants qui ne sont pas forcément stables. Les bonnes pratiques dans tout ça, je viens de le dire, hein, c'est des prises d'eau à proximité immédiate de l'orifice de vidange pour être vraiment équivalent au moine dans ces cas-là, quand on parle de canalisation d'eau froide. C'est un exutoire dédié et réglable pour permettre des abaissements partiels, par exemple. Hein, bon, il ne s'agit pas de vider un mètre, mais quelques centimètres, ne serait-ce que pour dénoyer quelques parties. Et un réglage de la plage de fonctionnement, c'est-à-dire que pour ajuster au moment de la création, c'est jamais pile poil au millimètre. Donc au moins, ça vous permet d'ajuster le fonctionnement. Et puis surtout, un exutoire dédié, ça facilite l'entretien. Vous pouvez vous entretenir le déversoir pendant que le trop-plein fonctionne. Surdimensionnement, pour être pleinement fonctionnel, parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait autant d'eau qui arrivait ou qui sortait, etc. Donc plus c'est large, mieux c'est. Et donc, ça va avec le surdimensionnement des différences de niveau significatives, donc entre ce fameux système et le déversoir. Donc maintenant, une grosse partie qui est un petit peu très problématique, justement, on l'a vu tout à l'heure avec les photos de Monsieur Carnier, c'est tout ce qui concerne les systèmes de gestion sédimentaire, donc notamment au moment des vidanges. Le rôle et le fonctionnement de tout ça, c'est de gérer ou de retenir les sédiments au moment des vidanges, par un ralentissement finalement du courant d'eau et de permettre une décantation des matières solides qui sortent du plan d'eau. Un autre procédé, c'est un barrage mécanique, tout du moins un complément à l'intérieur, ce qu'on appelle le bâtard d'eau amont, et ça limite l'effet de chasse au moment d'ouverture, parce que ce système, en fait, vous le disposez devant le système de vidange, devant la buse de vidange, et mécaniquement, ça limite le départ des sédiments. Mais ça ne limite qu'un temps. Hein. C'est toujours pareil. Il faut l'entretenir. Donc les types de matériaux, je viens de citer rapidement dans les fonctionnements, donc le bassin de décantation à l'aval, ou une zone d'épandage, c'est-à-dire que le terrain s'y prête et on a suffisamment de terrain plat et long pour pouvoir épandre à même le sol, et compléter tout ça éventuellement par un bâtard d'eau. Voilà un petit peu une photo explicative. Donc vous avez la chaussée qui est derrière. Le petit tuyau qui est là, en fait, c'est la représentation du système d'évacuation des eaux du fond que je vous ai parlé tout à l'heure, avec la fameuse prise d'eau du système qui rejoint donc l'exutoire. Devant la canalisation de vidange, la personne, en fait, a monté un bassin de pêche à l'envers, on va dire, dans son plan d'eau. Ici, on est dans la cuvette, qu'il fermera par des planches, ce qui fait que sa vanne de vidange étant à l'aval, le plan d'eau va se vider par cette vanne classiquement, comme il l'a toujours fait, jusqu'à hauteur de ce système, et ce système lui permettra de finir la vidange en enlevant progressivement les planches. Comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un lui sabote sa vanne une nuit, le plan d'eau va se vider jusqu'à ce niveau-là. Si, encore une fois, ces niveaux-là, à quel niveau doit-on mettre le bâtard d'eau, etc., ça, c'est le propriétaire qui connaît bien son plan d'eau. C'est-à-dire qu'il faut le mettre au-dessus de la mise en pêche de son ouvrage. C'est-à-dire que dans le cas présent ici, si l'eau descend jusqu'ici, si le niveau ici est supérieur au niveau de mise en pêche, tous les poissons resteront à l'intérieur, ou tout du moins un maximum de poissons resteront à l'intérieur. Sans ce système-là, bêtement par exemple, le plan d'eau se vide entièrement, poissons et sédiments, on est dans le système de gestion sédimentaire compris. Des exemples qui complètent les photos de M. Carmier tout à l'heure, donc une cuvette d'étang en assec, là où le cours d'eau a retaillé son lit dans l'épaisseur de vase, et malheureusement, ce qu'il faut pas voir, j'allais dire, et pas faire, c'est le colmatage du cours d'eau à l'aval, avec ou sans gestion sédimentaire. C'est-à-dire que même une gestion sédimentaire mal gérée, insuffisante, malheureusement, peut faire ça. Un sous-dimensionnement ou autre, on peut arriver au même résultat. Les limites de tout ça, c'est les disponibilités foncières à Laval et la topographie. Si vous n'avez pas la place, si vous n'êtes pas chez vous, si les pentes sont trop importantes, malheureusement, on ne peut rien faire à Laval. S'inquiéter de faire quelque chose dans le plan d'eau, encore une fois, ou d'acquérir une parcelle à Laval. Bon, voilà, c'est les limites, il faut le savoir. Les bonnes pratiques dans tout ça, c'est d'avoir un ouvrage en dérivation de d'écoulement aval. C'est-à-dire que pour être pleinement efficace, il faut qu'il soit déconnectable. Parce que, tout simplement, par un système de répartition, un peu comme une dérivation, on le verra tout à l'heure, le système de décantation est sur le côté de l'écoulement et vous l'activez au moment opportun, c'est-à-dire au moment où les sédiments sortent de votre plan d'eau. Schématiquement, dans les deux premières minutes et à la fin du plan et à la fin de la vidange. Tout ça pour augmenter la capacité, l'efficacité pardon du système et surtout la durée de vie. Et surtout, s'il est en déconnexion, ça évite le lessivage de ce bassin de décantation quand il est plein, par exemple. Une légère végétalisation aussi, ça c'est pareil, ça permet de tenir les terres du bassin de décantation. Parce que si le flux d'eau dans le bassin de décantation entraîne des MES à Laval, on a déplacé le problème. Un système de vidange de surface sur ce système, pareil, une large surface d'évacuation, tout ça c'est pour diminuer donc les vitesses d'écoulement à la sortie du système et de pouvoir vidanger le système de décantation pour l'entretenir. Et bien sûr, de maintenir les ouvrages en fonction durant les ASEC. Ça, c'est malheureusement très important et peu souvent appliqué. Quelques exemples, rapidement. Là, vous avez un bassin de décantation. Ici, c'est le système de vidange. Donc, vous voyez, c'est en fait une encoche avec des planches, tout simplement. Le plan d'eau est au-dessus. Le cours d'eau passe le long de la ripisylve ici et la prise d'eau du système est là-bas. Donc, en période très chargée, d'eau chargée, le gestionnaire envoie l'eau dans son bassin de décantation qui, donc par un phénomène purement mécanique, se décante et l'eau assainie ou du moins un peu plus moins chargée en MES ressort et rejoint le cours d'eau un peu plus bas. Même chose ici, le bassin de pêche est là, en sortie immédiate, un bypass qui envoie vers ce petit bassin et qui le renvoie ici en sortie vers le milieu naturel, en sachant que la limite de propriété est ici. Cette personne n'avait même pas 6-7 mètres, elle a réussi à faire quelque chose. Un exemple d'un bassin de décantation, c'est-à-dire que c'est pas que de la théorie, ça marche vraiment en pratique. À gauche, l'eau qui sort du plan d'eau. À droite, l'eau qui sort du milieu. Après décantation, voilà ce qu'on observe. C'est-à-dire que là, il y a quelques centimètres de sédiments au fond de la bouteille, ici il n'y en a presque pas. Donc toute l'utilité d'un bassin de décantation, c'est ça, c'est de stocker dans un bassin les sédiments pour pas les envoyer dans le milieu naturel. La dérivation, enfin, son rôle, c'est de décloisonner les milieux amont et aval, et décloisonner d'un point de vue piscicole et sédimentaire. On parle de continuité depuis ce matin, mais c'est ça, la continuité écologique, piscicole et sédimentaire. Conserver au maximum la qualité d'eau, y compris température. C'est-à-dire que l'eau passant autour du plan d'eau ne pénètre pas dedans, donc n'est pas forcément impactée par ce plan d'eau. Donc on conserve la qualité à l'amont. Ce système permet en plus de garantir un débit minimum vers l'aval. Donc je parlais de qualité à l'instant, mais aussi en termes de quantité. On a parlé d'évaporation. Une dérivation sert aussi à ça, c'est-à-dire à éviter l'assèchement du milieu aval en période estival notamment. Type de matériaux, il n'y a pas trop le choix, soit une tranchée à ciel ouvert, soit un busage. Les points positifs, par contre, pour le gestionnaire, là je l'aborde, c'est la gestion des débits entrants. Au moment des vidanges, tout passe dans la dérivation, c'est autant d'eau en moins à gérer. En gros, vous n'avez qu'un étang à vider, pas deux. C'est-à-dire que si vous faites le calcul, le temps d'une vidange d'une semaine, la quantité d'eau finalement qui rentre dans votre plan d'eau pendant une semaine quand vous n'avez pas de dérivation, vous verrez que c'est comme si vous avez vidé deux fois votre plan d'eau. La dérivation, c'est pareil, ça protège des éventuelles pollutions venant de l'amont. Je disais que ça conserve au maximum la qualité d'eau. Admettons que la qualité d'eau soit pas terrible à un moment donné ou que votre voisin malheureusement vidange mal son plan d'eau. Une dérivation, ça permet de vous protéger, notamment si vous avez un répartiteur. Vous fermez tout. Tout passe à côté, vous êtes tranquille. Le milieu en pâtit, on est d'accord, mais vous, ça vous arrange. Et surtout, ben, comme je disais tout à l'heure par rapport aux équipements piscicoles, c'est la possibilité d'un apport d'eau claire pour les bassins de stockage. Petite illustration, donc limite de la parcelle, le plan d'eau. Donc le plan d'eau, il faut imaginer qu'il allait un petit peu plus au milieu du bourrelet ici. Donc la personne a fait une tranchée, hein, effectivement, sur le côté ici. Ça, c'était juste après les travaux. Quelques années plus tard, voilà. Alors, c'est vrai, hein, c'est pas un montage photo. Bon, je le précise. Dérivation, toujours. Donc là, on parlait du contournement. Les limites de tout ça, ben, c'est la topographie. Hein, on va pas faire remonter l'eau. La maîtrise foncière, faut-il encore avoir la place de faire passer tout ça? Et l'hydrologie, comme l'a abordé Monsieur Bartou tout à l'heure. Quand il n'y a pas beaucoup d'eau, difficile de la faire contourner. Mais tout existe, tout est possible. C'est-à-dire que faire une tranchée dans du sable, c'est sûr, l'eau n'arrivera pas jusqu'au bout. Faut-il aménager la dérivation, la tranchée avec des matériaux étanches, etc. Tout est possible. La maîtrise foncière, même chose. Faut-il empiéter de quelques mètres sur le plan d'eau pour faire passer une dérivation de 30 par 30? Pourquoi pas? La topographie, droite ou gauche, on a le choix. Tout doit être réfléchi. Les bonnes pratiques, justement, là-dedans, bah, c'est ça. C'est un répartiteur en dur ou carrément pas de prise d'eau. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs alimentations, réfléchissez à savoir si une prise d'eau est bien utile, finalement. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin d'un ouvrage supplémentaire à gérer, à construire, à entretenir? Donc là, vous avez l'exemple. Le cours d'eau arrive du bas. À droite, c'est la dérivation. À gauche, c'est la prise d'eau. Là, la personne, c'est en cours de construction. Donc, il faut imaginer qu'après, elle met des petits seuils pour orienter les débits. Justement, dans ces petits seuils, prévoir l'encoche pour le débit réservé. L'encoche autonome, c'est-à-dire que le seuil côté dérivation est plus bas que le seuil côté étang. Ça fonctionne tout seul. Même chose, c'est calibré, c'est comme le déversoir. Et même chose, un surdimensionnement de cette encoche, vous êtes tranquille. Vous n'avez pas de crainte à venir tous les 4 matins voir si vous respectez bien le débit réservé avec votre pelle, etc. Même chose, donc pour compléter un peu tout ça, des repères de niveau d'eau. Si vous avez beaucoup d'eau qui passe, que vous avez en alimentation, que l'encoche ne suffit pas pour respecter ce débit réservé, souvent vous devez vous référer à une échelle limimétrique, à une quantité d'eau, tout simplement pour transformer une hauteur d'eau en débit, un repère, tout simplement. Pareil, pas besoin de faire une tranchée de 2 mètres de large pour faire passer un cours d'eau de 30 cm à l'amont. D'une part, c'est inutile. D'autre part, la dérivation n'a pas vocation à évacuer les crues. Enfin, c'est votre déversoir de crues qui est là pour ça. Et puis, pour essayer de restaurer ce qu'on appelle la continuité écologique, il faut avoir le même milieu à l'amont, à l'aval, mais aussi autour du plan d'eau. Donc, si ça fait 30 par 30 à l'amont, ça peut faire 30 par 30 autour du plan d'eau. Ça fonctionnera très bien. Si ça fonctionne à l'amont, ça fonctionne autour de votre plan d'eau. Et enfin, un tracé final, si possible, au plus loin de la chaussée. Tout ça pour éviter les désordres sur la chaussée et puis pour rendre le plus fonctionnel possible la dérivation, notamment au point de vue franchissement piscicole. Donc là, j'ai brossé un petit peu tous les ouvrages qu'on peut rencontrer sur un plan d'eau. Il y en a plein d'autres. Hein. On pourrait parler des passes à poissons, on pourrait parler de plein d'autres choses comme ça. Mais ce qu'il faut peut-être retenir là-dessus, c'est que finalement, les ouvrages, c'est peut-être finalement un premier pas vers une bonne gestion du plan d'eau. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de gestion sans avoir d'ouvrage. Mais ce n'est pas les ouvrages qui font la gestion non plus. Hein. C'est-à-dire que les ouvrages sont indispensables à une bonne gestion, mais il y a trois aspects aussi importants là-dedans. C'est la conception d'une part. C'est-à-dire que si vous avez un moine, mais qui fait 50 cm de diamètre, je vous invite à essayer de descendre dedans pour vidanger. Ça va être très compliqué. Moi, personnellement, je passe pas. Même si, bon, bref. Donc, un ouvrage, quel qu'il soit, que ça soit le déversoir, que ça soit la chaussée, le système de vidange, les grilles, aussi bêtement que ça, ça doit être pensé et bien mis en place pour être efficace. Et ça, bien souvent, ça se fait pas sur un petit post-it à côté du téléphone, hein, c'est un dossier technique, donc. Ça n'a pas été forcément abordé, mais il y a tout un dossier réglementaire, etc. Ce dossier, il ne faut pas forcément le voir comme un aspect réglementaire, mais aussi un dossier technique. Ça va être le mode d'emploi, finalement, de votre plan d'eau et surtout de construction de votre ouvrage. Au-delà de la conception, après la conception, la mise en place, il y a l'utilisation. Il faut savoir s'en servir. Hein. C'est-à-dire que une dérivation, un répartiteur, il faut savoir comment ça marche. Un bassin de décantation, c'est pareil. Donc c'est avoir tous les ouvrages possibles ne garantit pas l'impact zéro. Un protocole d'usage complet doit être mis en place au préalable. C'est pas le matin même de la vidange qu'on se demande comment s'ouvre le système de vidange. C'est pas le matin qu'on nettoie le système de vidange ou qu'on cherche à trouver le bassin de pêche. Malheureusement, je l'ai déjà vu. Voilà, ça se prépare avant. Tout ça, ben c'est pareil, ça fait partie éventuellement du dossier, c'est un petit peu le mode d'emploi du plan d'eau. Oui, c'est la dernière. Et enfin, l'entretien, ben voilà, les ouvrages vieillissent, il ne faut pas l'oublier. Une inspection et un entretien régulier sont nécessaires. Et ça, par exemple, c'est le registre dont j'ai parlé tout au début, qui permet de se souvenir de ce qu'on a fait, de quelle époque on a fait quoi, etc. Et enfin, ben, les vidanges régulières permettent également le contrôle des ouvrages. L'entretien ne se passe pas du contrôle. Et c'est tout. Non.